t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Le 30 janvier 2007, les États membres de l'Union africaine ont adopté à Addis Abeba la charte africaine de la démocratie. C'est dans le souci de promouvoir et de renforcer l'obligation aux gouvernants de rendre compte et d'encourager la démocratie participative. 10 ans après, une certaine opinion estime que cette charte n'a pas été appliquée en vue de consolider la démocratie, l'état de droit, de la paix, de la sécurité et du développement dans les continents. Qu'en pensez-vous? Réagissez sur notre page Facebook et commentez aussi ce sujet à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de nous appeler au 081 890 63 80 ou bien au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Jody Kachama et Dieudonné Nyangasa concourent à la production de ce programme supervisé par Martin Sebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Andji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
La charte africaine a été adoptée dans les soucis, comme je l'ai dit, de promouvoir l'adhésion de chaque État parti aux valeurs et principes universels de la démocratie et le respect des droits de l'homme. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous recevons dans ces studios Maître Gabin Loulendou Moussoumari, qui est expert en droit international et membre de la direction politique de l'Union nationale pour le Congo, je crois, UNC. Voilà, donc l'UNC de Vital Kamerhe. Maître Gabin, bonjour.
Bonjour, monsieur, comment j'y ai?
Voilà, merci beaucoup Maître Gabin d'avoir accepté notre invitation en ce jour. Et puis bon, d'ailleurs, d'entrée des jeux, la charte africaine pour la promotion de la démocratie. D'aucuns estiment que aujourd'hui cette charte souffre d'application. Pour quelles raisons?
Mais d'abord, il faut comprendre bien les choses en identifiant les acteurs, ceux qui sont censés, d'une façon ou d'une autre, concourir à la mise en œuvre d'un instrument juridique international. Ici, en l'occurrence, la charte africaine des démocraties, des élections, ainsi que la bonne gouvernance, ou la gouvernance. Cette charte des Nations Unies, cette charte africaine de la démocratie, des élections et des bonnes gouvernances, comme vous l'avez si bien dit, est articulée autour d'un certain nombre de principes. Je voulais, à l'intention de vos nombreux auditeurs, rappeler un certain nombre de principes consacrés par cette charte, en particulier l'article 3 de la charte. L'article 3 de la charte dit expressis verbis ceci: les États parties s'engagent à mettre en œuvre la présente charte conformément aux principes énoncés ci-après, les respects de droits de l'homme et des principes démocratiques. Ça, c'est le premier principe, parce que cette charte, en ce qui concerne les principes, est articulée autour des 11 principes. Le premier principe consacré par la charte, c'est les respects de droits de l'homme et des principes démocratiques. Le deuxième principe, c'est l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution de l'État parti et aux principes de l'État de droit. Troisième principe, c'est la promotion, bien évidemment, de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans... Troisième principe, c'est la promotion d'un système de gouvernement représentatif. Quatrième principe, c'est la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes. Cinquième principe, c'est la séparation de pouvoir. Sixième principe, c'est la promotion de l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les institutions publiques et privées. Septième principe, c'est la participation effective des citoyens. La participation effective des citoyens au processus démocratique et des développements et à la gestion des affaires publiques. Huitième principe, c'est la transparence et la justice dans la gestion des affaires publiques. Neuvième principe, la condamnation et la répression des actes de corruption, des infractions et de l'impunité qui y sont liés. Dixième principe, c'est le rejet et la condamnation des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Et enfin, le onzième principe, c'est le renforcement du pluralisme politique, notamment par le connaissance du rôle de droits et des obligations des partis politiques légalement constitués, y compris les partis politiques d'opposition, qui doivent bénéficier d'un statut sous la loi nationale.
Voilà, alors il y a 11 principes, vous l'avez dit. Le processus démocratique en RDC notamment, parce que nous parlons du continent, mais quand nous nous isolons de manière un peu particulière les principes par rapport au contexte sociopolitique de la RDC, est-ce que la RDC est dans les bons ou la RDC a péché quelque part contre ces 11 principes ou encore quelques-uns de ces principes?
La République démocratique du Congo est très loin d'obéir aux différents principes tels qu'articulés à travers l'article 3 de la présente charte, dont les principes venaient d'être rappelés, les 11 principes venaient d'être rappelés tout à l'heure. Regardez très bien, commençons par la séparation de pouvoir. Lorsque vous regardez la séparation de pouvoir, parce qu'un pouvoir absolu corrompt absolument, il faut absolument qu'il y ait séparation de pouvoir pour qu'il y ait un peu une sorte de contrebalance de pouvoir, parce que si vous avez tout le pouvoir à vous seul, vous allez en abuser. C'est pour cette raison qu'on a voulu qu'il y ait une répartition des responsabilités en termes des séparations de pouvoir pour éviter ainsi que tel puisse s'immiscer dans l'exercice des pouvoirs d'une autre institution. C'est un principe sacro-saint en démocratie, dans la mesure où c'est la justice indépendante qui fait son travail, qui garantit la neutralité, l'impartialité entre partis, entre riches et pauvres, etc. Donc, dès lors que vous n'avez pas cette séparation de pouvoir, eh ben, il est clair qu'il y a une seule personne ou une institution qui va dominer sur toutes les autres. Et si vous regardez très bien en Afrique, on se trouve devant ces quatre figures d'une façon générale. C'est vrai qu'il y a un certain nombre des pays en particulier...
qui ont fait quand même les avancées, l'Afrique du Sud...
En particulier les pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous avez les Sénégal qui maintenant de plus en plus montrent que c'est un pays qui a opté pour l'alternance démocratique.
Le Bénin.
Vous avez les Bénin, vous avez les Ghana, vous avez les Nigeria. Donc ces pays-là, vous avez l'Afrique du Sud. Donc ces pays de plus en plus montrent que les principes...
Mais l'Afrique centrale reste un peu à la traîne.
L'Afrique centrale reste à la traîne, ainsi que d'autres parties du continent. Donc d'une façon générale, les bilans est très, très, très négatif par rapport aux principes édictés. En République démocratique du Congo, pour répondre à votre question, c'est que le principe des séparations de pouvoir n'a pas élu domicile. Donc vous allez vous rendre compte que nous avons une institution, le président de la République, qui domine sur toutes les autres institutions, sur l'institution parlement, sur l'institution cours et tribunaux, sur l'institution cours constitutionnelle et sur d'autres institutions de la République.
Mais nous sommes sous un régime semi-présidentiel. Ou parlementaire. Parce que là, il y a déjà la Constitution consacrée le régime semi-présidentiel.
Oui, mais les régimes semi-présidentiels, c'est pas un régime où l'institution président de la République a tout le pouvoir, dans la mesure où le Premier ministre est issu des partis majoritaires ou du parti majoritaire au Parlement ou la coalition majoritaire au Parlement. Parce que le régime semi-présidentiel a une principale caractéristique qui consiste à dire l'exécutif est bicéphale. Vous avez d'un côté
l'Assemblée nationale et puis le Sénat.
Non, je parle de l'exécutif. L'exécutif est bicéphale. Et lorsque l'exécutif est bicéphale, vous avez d'un côté le président de la République et de l'autre côté
le Premier ministre,
chef du gouvernement. Le Premier ministre, lui, il est responsable devant le gouvernement parce que le Premier ministre est issu du parti majoritaire ou de la coalition majoritaire au Parlement. Alors, ce qui veut dire que le président de la République, au regard de la Constitution du 18 février 2006, ne peut pas nommer en dehors, bien évidemment, de la majorité parlementaire ou de la coalition parlementaire. Mmh. Ce qui donne au Premier ministre un certain poids. Bien évidemment, ils doivent collaborer. Mais encore que, si vous regardez d'autres institutions, notamment la Cour constitutionnelle, qui est également une institution prévue pour régler de problèmes en rapport avec l'interprétation de la Constitution, et c'est en même temps le juge pénal du chef de l'État ainsi que du Premier ministre. Mais si vous regardez comment les institutions marchent, vous allez vous rendre compte qu'en Afrique, c'est des régimes semi-présidentiels, mais c'est des régimes qui accordent plus de pouvoir au président de la République, dans la mesure où c'est l'institution président de la République qui domine tout. C'est son tempo.
Alors, mais pourquoi on est toujours dans cette situation dès lors que l'Afrique avait quand même fait un pas vers les années 90? Nous avons vu un engagement sérieux des États de pouvoir s'engager dans le processus démocratique. Et aujourd'hui, 100 fois aux yeux, on le dit quand même, la majorité des chefs d'État sont issus, au fait, sont le produit de cette démocratie initiée depuis 90. Je crois que c'est déjà une valeur ajoutée qui pouvait encore jouer sur les avancées très significatives de ces processus démocratiques. Mais il n'en est pas un. Hein, mais pour quelle raison concrètement?
Et quand je vous entends poser cette question, immédiatement, vous faites allusion à une sorte de perestroïka.
Par exemple.
Donc, on est parti de l'idée selon laquelle il fallait de plus en plus la transparence. Mais là, c'était sans compter sur les Africains. Regardez un peu la nature. Quand vous avez des chefs d'État issus des coups d'État, vous avez des chefs d'État qui torpillent les processus électoraux, vous avez des chefs d'État qui pratiquement procèdent de l'hérédité d'une façon ou d'une autre, parce que fils de tel, succédant à son père d'une manière, les processus démocratiques ont été biaisés. Et par voie de conséquence, même quand les élections sont organisées, c'est des élections dont les résultats sont connus à l'avance, dans la mesure où on organise les élections alors que la charte africaine en rapport avec la démocratie, l'élection et la gouvernance voudrait bien évidemment que les élections soient justes, que les élections soient transparentes et régulières. Or, il n'y a pas de régularité. Quand on parle de la régularité, ce n'est pas seulement en termes des fréquences, mais c'est aussi en termes même un processus régulier, un processus qui tient compte d'un certain nombre des principes énormes. L'équité, il n'y a pas d'équité. La justice, il n'y a pas de justice. Donc, c'est la loi du plus fort qui domine. Bref, on va aux élections, soi-disant, pour obtenir l'alternance démocratique, mais en réalité, on va aux élections pour se maintenir par un processus déjà biaisé. Partant de cela, ces genres de régimes qui se mettent en place à la suite des processus électoraux biaisés fondent leur pouvoir par la corruption. Or, si vous lisez cette charte, la charte veut qu'on puisse combattre la corruption. Or, pour que ce pouvoir se maintienne, ce pouvoir se trouve être généralement alimenté par des actes de corruption, etc. Ça, c'est d'une façon générale en Afrique. Mmh. C'est ce qui fait que vous avez un régime constitutionnel appelé semi-présidentiel, mais en réalité, généralement, ces régimes s'apparentent au régime présidentialiste. Hein? Donc, je ne parle pas des régimes présidentiels, mais je parle des présidentialistes. Parce que les régimes présidentialistes, c'est une déviation du régime présidentiel. Mais ici, on est dans un régime semi-présidentiel, mais dans l'équilibre de pouvoir, on ne voit pas. On voit un chef de l'État qui domine toutes les institutions, c'est sa volonté qui passe, et les autres institutions sont devenues des chambres d'enregistrement ou une caisse de résonance au profit du chef de l'État.
Je crois que ça a aidé quand même les auditeurs qui se sont déjà enregistrés pour participer à ces débats. 11 principes tels qu'énoncés par la charte. Vous êtes rendu compte qu'effectivement il y a vraiment un problème au niveau du respect de ces 11 principes dans les continents de manière générale, et aussi en RDC où il y a quand même quelques dispositions qui souffrent d'application, entre autres la question sur la séparation du pouvoir, les régimes semi-présidentiels tels qu'énoncés dans nos constitutions et la la constitution pratiquement de plusieurs pays ou des États dans les continents, mais ça pose souvent problème. Certes, il y a des avancées, vous l'avez reconnu, du côté de l'Afrique de l'Ouest, mais l'Afrique centrale et une autre partie du continent restent encore dans la traîne. On va voir avec Maître Likonza qui est à Kinshasa, Jean-Claude Akindou, Julien Bandaka, leur contribution dans cette émission. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue. Maître Likonza, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour JR.
Quelle est votre contribution dans cette émission? Est-ce que vous pensez que le 11 principe énoncé par la charte, 10 ans après, souffre encore d'application? Et pour quelles raisons? Vous avez suivi d'ailleurs notre invité tout à l'heure. Est-ce que vous avez un élément de plus?
Mais bien sûr, je salue l'invité. L'échec est... il est visible et palpable. Vous savez, hier, les Africains, les États africains qui cherchent à se démocratiser imitent très souvent ce qu'on appelle les pays occidentaux. La démocratie que nous appliquons en Afrique, elle est occidentale. Et lorsqu'on imite quelqu'un, on peut avoir la chance de réussir que si on associe celui-là dans l'application de ce qu'on on est en train d'imiter. Mais qu'est-ce qui se passe en Afrique? En matière de fonctionnement des États, il y a la notion de souveraineté des États indépendants. Alors, les États africains, lorsqu'ils imitent les États occidentaux, ils ont très souvent peur de les associer sous prétexte d'éviter l'ingérence occidentale dans les affaires des Africains. Entre-temps, le processus de démocratisation du continent africain est en train de souffrir. Et aujourd'hui, à travers le monde, c'est la démocratie qui fait vivre un peuple. Ça donne le pouvoir, plein pouvoir au peuple, de s'exprimer librement et de donner la forme qu'il faut pour la gestion de la chose publique. Et depuis qu'on a mis en place cette charte, bien évidemment, l'invité a martelé sur le principe de séparation des pouvoirs.
Voilà, Maître Likonza, vous êtes avec nous?
Dans cette charte-là, il y a 11 objectifs. Si moi je peux, dans le contexte de la RDC, prendre seulement un seul objectif, promouvoir la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, afin d'institutionnaliser une autorité et un gouvernement légitime, ainsi que les changements démocratiques de gouvernement. On comprendra vite que la charte est loin d'être respectée en ce qui concerne la République démocratique du Congo. On a organisé les élections en 2006, c'est vrai, à différents niveaux. On avait élu les dirigeants, les représentants. Mais en 2011, qu'est-ce qui s'est passé? On a instauré le système des élections essentielles.
Oui, mais Maître Likonza, qu'est-ce qui expliquerait ces déséquilibres? La partie ouest est très avancée, en tout cas est loin vraiment d'aller vite dans ce processus. Mais les pays du centre, l'Afrique centrale, notamment, vous avez la RDC, vous avez le Burundi, vous avez, quoique le Burundi est dans la partie est, vous avez le Congo-Brazza, le Cameroun, le Gabon. On a l'impression que ici, on fait du surplace.
Bon, chez nous, le plus grand problème se situe au niveau de la compréhension même de la constitution. Vous voyez, la charte martèle sur la constitution des États partis. Donc, tout doit s'articuler autour de la constitution de chaque État. Mais chez nous, qu'est-ce qui se passe? Chacun veut interpréter la constitution à sa manière. Vous voyez, ceux de tel camp disent que telle disposition de la constitution peut être interprétée de cette manière. Et d'autres disent que c'est pas comme ça, et c'est d'une autre manière. Et il y a comme ça un affrontement inutile qui fait ce que on n'aboutisse pas à un résultat attendu par le peuple. Et on fait les surplaces.
Merci
donc,
beaucoup.
Au lieu d'évoluer,
merci.
On
merci
est
beaucoup,
là
Maître
en train
Likonza.
D'observer, alors qu'ailleurs, on évolue.
Merci donc, beaucoup, Maître Likonza. Merci. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez dit, l'échec est visible et palpable au niveau du continent. On se rend compte que cette charte, 10 ans après, souffre encore d'application. Les États d'Afrique imite aveuglément les pays européens qui ont initié d'ailleurs cette démocratie. Alors l'idéal pour vous, selon vos propos, c'est d'associer ceux-là qui ont initié ces processus de démocratisation universelle, mais bien entendu en mettant de côté ces principes de souveraineté d'un État, raison pour laquelle ça pourrait faire avancer les choses. Merci beaucoup Maître Likonza. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, bonjour et bienvenue. Jean-Claude, vous êtes avec nous? Voilà, on prend Julien Bandaka. Julien, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour. Bonjour à l'invité.
Alors, vous avez suivi notre invité qui a, au fait, brossé les tableaux sombres de la non-application des 11 principes de la charte africaine, en prenant juste un aspect, la séparation de pouvoir. Est-ce que vous pensez que parmi les 11, il y a aussi des dispositions qui en souffrent d'application au niveau de l'Afrique, de manière générale, et aussi au niveau de la région et de la sous-région?
Oh là là, premièrement, je suis très inquiet de tout ce qui se passe dans notre pays. Prenons par exemple le principe numéro 1, le principe numéro 2, le principe numéro 4 et le numéro 10 chez nous. Et tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, je pense que nos dirigeants africains sont bien à élaborer des textes, mais pour le mettre en application, c'est tout un problème. Prenons les cas de l'Afrique centrale. Nous sommes trop loin à l'application des bons textes qu'on est tenté de l'élaborer. Plus ou moins, l'Afrique de l'Ouest, ils sont un peu quand même avancés dans la démocratie. Prenons les cas de notre pays, la RDC. Nous souffrons de l'application pour ce qui concerne le respect des droits de l'homme et le respect
des principes démocratiques.
Nous ne sommes pas à l'époque du fait Maréchal Mobutu, comme il disait que la démocratie chez nous, on ne peut pas l'appliquer à la lettre. La démocratie, ça se considérait ici en Afrique, c'est comme un chef coutumier. Quand un chef parlait, tout le monde s'était. Non, ce n'est pas de la façon. Il y a l'évolution. Et je demande à l'invité, quel conseil il peut toutefois prodiguer à nos dirigeants et tous nos dirigeants qui pratiquent toutes ces histoires? Ils ne sont pas inquiets,
voilà,
car ils savent que...
Oui. Alors Julien, oui, Julien, vous avez,
ils sont
Julien, on va, voilà, Julien, on va, oui, évoluer avec vous. Vous avez dit que de manière un peu générale, en Afrique centrale notamment, le oui, premier principe, le deuxième, le quatrième ainsi que le dixième souffrent vraiment d'application. Oui. Alors pour les cas particuliers, oui, de la RDC, vous avez évoqué le respect des droits de l'homme et des principes démocratiques qui posent encore problème, c'est ça? Et qu'en est-il alors de l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution de l'État? Parce que c'est le deuxième principe.
Oui. Je vous ai bien dit que le tout, ça ne se respecte même pas. La démocratie au Congo, je ne sais pas comment je peux tout soit l'expliquer. Est-ce qu'il y a la démocratie chez nous? Aujourd'hui même à Kinshasa, on a décrété, il était prévu aujourd'hui qu'il y ait la marche. Mais c'est étouffé. Nous suivons partout, dans les radios, dans les chaînes de télévision. Donc c'est étouffé. Parce qu'ils savent quelles sont les commandes, personne ne peut les inquiéter. Voilà.
Merci beaucoup, Julien, d'avoir appelé Dembandaka. Nous retenons pour vous que les premiers principes, le deuxième, le quatrième ainsi que le dixième souffrent d'application en Afrique centrale particulièrement. Mais dans d'autres parties du continent, on sent que les choses avancent de manière un peu très significative. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, Julien.
Maître Gaston, vous avez suivi vos deux prédécesseurs qui, au fait, chacun a évoqué, pour les cas par exemple de Maître Likonza, qui a évoqué le cinquième principe, la séparation des pouvoirs, qui souffre d'application, mais Jean-Claude évoque plutôt les quatre autres principes, notamment le respect des droits de l'homme, l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la Constitution, également la tenue régulière d'élections transparentes, libres et justes, et également le rejet et la condamnation de changements anticonstitutionnels de gouvernement.
Merci beaucoup pour la parole, mais je commencerai par corriger. Moi, je ne suis pas maître, je ne suis pas dans les textes. Moi, je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. Donc, c'est une correction. On ne peut pas avoir des qualités qui n'est pas la vôtre. Hein.
Merci, ingénieur Gaston.
Ok. Alors, Loin de tous ces commentaires que les amis viennent de faire ici, moi, mon analyse, elle est simple. Quand vous étiez devant l'origine du mot charme, même dans le dictionnaire, vous comprendrez que c'est un acte accordé par les rois aux communes à l'époque pour leur conférer quelques privilèges. Et si vous prenez le contexte de la France, la charte était appliquée en France en 1890 quelques pour parler de la monarchie constitutionnelle. La charte dont nous parlons de l'Union africaine, qu'est-ce que cette charte prévoit en cas de non-application de toutes ces mesures? Voilà le problème. Nous ne pouvons pas être là en train de discuter, d'analyser les quatre pays. La RDC, c'est un des pays africains. Qu'est-ce que cette charte prévoit au cas où telle disposition n'est pas appliquée? Qu'est-ce que la charte elle-même prévoit? La charte n'est pas répressive. Elle ne prévoit pas une mesure de sanction. Voilà, à moins que Gabin qui est là nous informe.
Voilà, je crois que je peux quand même me permettre de vous lire l'article 23 de cette charte, disons chapitre 8 de cette charte qui parle des sanctions en cas par exemple de changement anticonstitutionnel du gouvernement. Alors, il dit les États parties conviennent que l'utilisation entre autres des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible des sanctions appropriées de la part de l'Union africaine. 1. Tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement démocratique élu. 2. Toute intervention des mercenaires pour renverser un gouvernement démocratique. 3. Toute intervention des groupes dissidents armés ou des mouvements rebelles pour renverser un gouvernement. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur, ou tout amendement ou toute révision des constitutions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Donc, ils ont prévu quand même des sanctions.
Non, mais chapitre 8. Je vous ai suivi. La charte parle des sanctions prévues
par l'Union africaine.
Nous parlons français, vous m'avez parlé d'une telle sanction, laquelle qui est dedans là-bas? Une sanction prévue par l'Union africaine. À moins que j'ai mal compris votre phrase. Laquelle? On a dit qu'un président qui va dépatrouiller la constitution sera immédiatement attaqué par la force africaine. On a dit que celui qui va accéder au pouvoir par un putsch sera, il ne sera pas accepté par les autres pays et il doit être renversé dans les 48 heures. C'est ça que moi j'ai appris. Sanction là, moi je suis un technicien. Il n'y a pas de choses concrètes dans ces histoires là, ce sont des textes. Heureusement pour les dirigeants africains, ils ont affaire à un peuple qu'ils doivent diriger. Je rentre dans mon pays, monsieur JR, ne me dévie pas dans le cas général. Notre pays par rapport à cette charte là, mais il n'y a rien qui m'étonne. Vous avez des opposants et ceux qui sont au pouvoir, mais ces gens sont applaudis par nous qui les avons, entre guillemets, changés. Nous ne sommes pas démocratie en Afrique. Je voudrais que les Africains qui me suivent puissent comprendre que nous sommes dans une oligarchie, c'est un petit nombre qui dirige les autres. Alors pourquoi nous devons, même là, nous débattons sur un terme, démocratie, alors que vous le savez, M. Gilles, que nous ne sommes pas dans une démocratie. C'est une façon de nous endormir. Il faudra qu'on nous dise clairement que nous sommes dans une oligarchie où c'est un petit nombre qui dirige la masse. Et cette masse est obligée par le droit de ce que vous appelez élection, donner du pouvoir à ceux qui vont les torturer. Là, les rendez-vous sacrés du pays, si tout le monde parle des élections, un citoyen est comparé à un électeur. Et vous allez dire que le pouvoir que vous prenez, vous conférez à quelqu'un que vous ne connaissez même pas ses intentions, c'est ça que vous appelez démocratie. Nous sommes dans une oligarchie par les sanctions prévues par l'Union africaine. Dites-moi une seule sanction, il n'y en a pas. Je prends le cas de Congo-Brazzaville. On a changé la constitution. La charte prévoit quoi? Celui qui change la constitution doit être exclu de l'Union africaine ou doit faire l'objet d'une menace militaire. Il n'y en a pas. Ce sont des textes, des juristes, du blabla. Il n'y a pas de concret dedans. Dites-moi une mesure concrète, M. JR. Et là, je serai d'accord avec vous. Donc, moi, je voudrais qu'on parle de l'oligarchie africaine pour qu'on l'applique. Et là, je reviens à ce que les faits Mobutu disait. Si nous voulons nous en sortir, nous devons d'abord reconnaître que la démocratie, c'est l'élément que les Européens nous ont envoyé pour nous diviser et pour éviter qu'on avance. Donc nous ne devons pas être fiers de la démocratie. Nous ne devons pas non plus l'appliquer. Comme elle nous a été imposée, nous ne devons pas l'appliquer à la lettre. Je regarde cette phrase de Mobutu, pas à la lettre. Nous devons l'adapter à nos réalités ici en Afrique. Voilà.
Merci beaucoup, Gaston. 081-890-43-49-69 ou encore 081-890-63-80 pour votre intervention en direct.
Meyenu agini mushinga bwakusungula balomboji bafyavafya baditung bimpa nutifundisha ni nwambila banu tipikala nusomba na bwabwivi
Parole aux auditeurs.
Beaucoup d'inquiétudes et également beaucoup d'appréhensions de la part des uns et des autres. Vous êtes nombreux à avoir posté vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à vous tous et je crois que le débat continue encore à se tenir sur notre page Facebook. Et déjà là, nous avons le plaisir d'accueillir donc plus de 4000 internautes qui commentent et qui consultent notre page. Merci à vous tous de l'intérêt que vous accordez à cette émission d'échange citoyen. Nous avons avec vous, nous sommes dans ces studios avec Maître Gabin Moussoumari, qui est avec nous, Monsieur Gabin Loulendou Moussoumari, qui est expert en droit international et aussi membre de l'UNC, parti cher à Vital Kabéré. Alors, vous avez suivi les uns les autres. On a l'impression, je prends juste le dernier auditeur de cette première série, Gaston, l'ingénieur Gaston, qui parle de l'oligarchie. Dès lors que nous avons déjà des pays qui reposent leur gouvernance par la Constitution, est-ce qu'on peut encore parler de l'oligarchie?
Merci beaucoup pour la question et j'ai vu qu'il y a quand même des questions intéressantes quand on suit l'intervention des Monsieur Likonza, on suit l'intervention des Julien, l'intervention des Gaston, on se rend compte qu'effectivement ils disent chacun fait son analyse tout à fait personnelle, mais cette analyse n'est pas loin d'être la réalité. Alors, ce qu'il faut d'abord retenir, vous avez posé une question fondamentale, c'est celle des savoirs, mais pourquoi on a l'impression que les choses ne marchent pas? Regardez déjà très bien les principes 7. Et si vous lisez les principes 7, c'est la participation effective des citoyens au processus démocratique et développement et la gestion des affaires publiques. La démocratie en Afrique est piégée parce que, justement, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte pour que les populations, les communautés puissent s'approprier le processus. Si les communautés ne s'approprient pas les processus, eh ben, ça veut dire, nous laissons des gens qui gèrent les entités étatiques mettre en œuvre ces principes. Or, ces gens n'ont pas intérêt à mettre en œuvre ces processus, parce que ces processus veulent bien évidemment qu'il y ait l'alternance démocratique. Or, eux veulent rester le plus longtemps au pouvoir, parce qu'un pouvoir ne peut être arrêté par un autre pouvoir, en l'occurrence le peuple. Si le peuple ne s'approprie pas les processus, ne s'approprie pas les principes, ne s'approprie pas les normes, il sera bien évidemment difficile de pouvoir les mettre en place. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous avez des gens qui sont à Kabeya Kamwanga, des gens qui sont, à Chimbulu, des gens qui sont à Ilebo, etc., qui ne connaissent même pas ces instruments juridiques existants, parce que ces instruments juridiques existent en français, et que ces instruments n'ont pas été traduits dans les langues que ces gens parlent, ça veut dire que ces gens ne connaissent pas le droit qui leur sont reconnus. Et quand on ne connaît pas le droit qui sont reconnus à telle ou à telle personne, c'est difficile de pouvoir les revendiquer. Regardez un peu avec la constitution du 18 février 2006, on se rend compte que de plus en plus, les gens commencent à s'élever pour défendre cette constitution. Ils ne la connaissent pas, mais je constate quand même que les gens se sont appropriés un certain nombre de dispositions. Peut-être qu'ils ne les ont pas lus, mais à force de pouvoir répéter ces dispositions, les fameux articles 64, qui ne connaît pas l'article 64 de la Constitution? Parce que justement, le fait de répéter ces dispositions constitutionnelles, les gens finalement commencent à s'intéresser en se disant, mais écoutez, la Constitution nous donne le droit de faire ceci ou fait de nous une obligation, en ce sens ou dans un sens tout comme dans un autre. C'est important lorsque vous avez des instruments juridiques, qu'ils soient au niveau national, qu'ils soient au niveau international, si ces instruments juridiques ne sont pas vulgarisés, ne sont pas connus, pour que les titulaires de ces droits qui sont consacrés puissent s'en approprier, c'est difficile bien évidemment, de pouvoir se battre pour des choses qu'on ne connaît pas. C'est pour cette raison que le principe 7, consacré par la charte, est important, mais les uns les autres n'ont pas intérêt de voir ces principes être connus dans la mesure
où... Est-ce que c'est à dessein que les signataires de cette charte n'ont pas pu donner à cette charte un caractère contraignant? Parce que là, je venais de lire le chapitre 8, que d'ailleurs notre auditeur ne partage pas, les sanctions par rapport à l'accès au pouvoir. Quand c'est anticonstitutionnel, on dit... Il y a des dispositions prises par l'Union africaine, mais on l'a pas cité. Est-ce que les signataires ont fait à dessein?
Vous savez, le vrai problème, c'est que la question des sanctions, c'est une question qui domine le droit international dans la mesure où certains auteurs ont même nié l'existence du droit international en disant que le droit international était dépourvu des sanctions. Étant donné que le droit international est dépourvu des sanctions, c'est un droit mou, c'est un soft law, un droit mou, et comme c'est un droit mou, on ne peut pas considérer que le droit international existe, parce que selon eux, sans sanctions, le droit n'est pas droit. La juridicité d'une norme n'est pas fonction absolument de la sanction. Une norme juridique peut rester une norme juridique sans toutefois qu'elle soit pourvu d'une sanction. Ça, c'est la réponse à donner. Deuxièmement, il est des sanctions en droit international, mais ces sanctions ne sont pas comparables au droit interne, dans la mesure où la société interne, c'est une société hiérarchisée. Le droit interne, c'est un droit par essence hiérarchisé. Si tel ne fait pas ceci, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour le contraindre. Mais le droit international est basé sur l'égalité souveraine des États. Et ce principe, c'est un principe fondamental en droit international, dans la mesure où il fait partie de ce qu'on appelle les normes impératives, le jus cogens. Alors, partant de cela, en droit international, un État n'est pas au-dessus d'un autre État, parce que c'est l'égalité souveraine des États qui est consacrée. Ce qui veut dire, un État ne peut pas dominer sur un autre État. À telle enseigne que l'État s'oblige en fonction des engagements qu'il prend. Il ne peut pas être obligé pour des engagements qu'il n'a pas pris. C'est cette nature de la société internationale qui doit être appréhendée. Quand on n'a pas appréhendé la nature de la société internationale, on va commencer à chercher des sanctions similaires au droit interne. Voilà. Encore que, si vous lisez bien la charte, il est bien évidemment prévu que des gens qui se mettent en porte-faux par rapport aux principes, par rapport à la charte, peuvent être assujettis devant les juridictions de l'Union. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous avez, par exemple, dans les cadres de l'Union africaine, vous avez la conférence des chefs de l'État et de gouvernement. Quelle est la nature de ces chefs d'État et de gouvernement? Est-ce que sont-ils eux-mêmes le fruit d'un processus démocratique transparent? Quand vous avez des dictateurs, vous avez des gens qui veulent se maintenir au pouvoir, et vous prenez des principes qui sont des principes qui ne vont pas, bien évidemment, en faveur de leurs propres intérêts, il va de soi que la mise en œuvre de ces principes va souffrir.
C'est pourquoi Gaston a parlé de la théorie, c'est le droit, il reste le papier, tout ça c'est l'application. Alors on va écouter quand même deux autres auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat, Eric Alikassi et Maître Omar à Kinshasa. Eric, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, la radio Okapi, Omar Prisonnier. J'ai lu, depuis que la RDC a été mise dans les mains des dirigeants congolais, parce qu'aujourd'hui nous totalisons 8 présidents, et dans les 8, selon les 4 qui sont succédés, il y a vraiment que des passeports.
Voilà, Eric.
Les 4, en commençant.
Eric, vous parlez de 8 présidents dans quel pays, ça?
Oui, j'ai commencé par Léopoldé jusqu'à arriver à ce président Joseph
Kabila. Voilà. Alors, peut-être vous allez
éclairer. Une exception.
Voilà, vous allez éclairer.
Une démocratie.
Eric.
Et aujourd'hui.
Eric, est-ce qu'on peut s'écouter? Alors, vous avez dit, vous avez commencé à compter partant de Léopoldé. Alors, on y va. Léopoldé, après?
Après Léopoldé, il y a fait Koningayo Albert.
Oui.
Il y a fait Albert III. Il y a fait encore. Bon, et l'autre que j'ai ignoré, nous passons maintenant aussi à Kasavubu.
À Kasavubu,
il y a Maïchara Mobutu. Après Maïchara Mobutu, il y a aussi Monsieur Laurent Désiré Kabila
et puis, son
fils qui a pris aussi pouvoir.
Nous avons vu
que la loi L'autre invité à la participation des citoyens dans le processus de la gestion. Le peuple s'y engage pour l'idée que les textes qui ont été signés par l'accord de l'OIWA puissent être mis en exergue. Mais désolé, qui avait légiféré ces lois-là, ce sont des personnes. Ils avaient même pensé à la langue qui serait applicable pour pouvoir le bénéfice de la population. Aujourd'hui, nous demandons d'où vient maintenant cet esprit de s'accrocher, qu'il ne faut pas qu'il y ait être toujours personnel. Donc nous devons maintenant chercher. Aujourd'hui, l'accord de sanctité n'est pas appliqué, l'accord du 18 n'est pas appliqué, l'accord du 21 décembre n'est pas appliqué. Donc, que les Congolais, ils disent que nous ne voulons pas que l'État extérieur se gère. Et si nous laissons que les Congolais eux-mêmes trappent se légiférer, il y a toujours des fiascos. Reprends, où en sommes-nous? Demandons que le pouvoir de jeunes, demandons que le pouvoir démocrate puisse maintenant être mis en exergue pour qu'il y ait une paix durable et un fonctionnement pour le bien-être de la population. Aujourd'hui, nous avons lu dans le sentiment des Congolais, il sait toujours que l'intérêt égoïste. Et que cet intérêt sera personnel. Est-ce qu'à place de gâcher une démocratie? Et même si nous disons, nous chantons qu'il y aurait des élections en 2017, même celui qui serait élu, nous pensons, nous voyons pas l'état de choses qui se passe, qu'il commencera aussi à jouer l'argent de temps qui sont passés, et il a fait seulement un esprit critique, un esprit égoïste pour dire que non, c'est moi. Moi.
Merci beaucoup, Eric. Voilà, Eric, merci beaucoup parce que là, vous entendez donc au septième principe de cette charte, la participation effective des citoyens au processus démocratique et de développement et à la gestion des affaires publiques qui marche, en tout cas selon vos propos, avec le deuxième principe, l'accès au pouvoir et son exercice conformément à la constitution de l'État parti et au principe de l'État de droit. En tout cas, merci beaucoup, Eric, d'avoir appelé Delicacy, Maître Omar. Vous êtes à Kinshasa, bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci JR et bonjour à votre invité.
Voilà, vous avez la parole, Maître Omar. Quelle est votre contribution? Après avoir lu, vous avez lu comme tout le monde les 11 principes de la charte. Aujourd'hui en Afrique, ces dispositions souffrent d'application et vous avez suivi également vos prédécesseurs qui ont donné aussi un exemple par rapport à l'Afrique centrale et particulièrement à notre pays où il y a quelques principes qui, en tout cas, sont dans ces cas-là.
Merci, JR, de la parole que vous m'accordez. Avant tout, je tiens quand même à donner quelques avis contraires par rapport à ce que l'invité a dit. La juridiction d'une règle de droit à trois critères, à part l'obligatoriété, c'est que l'arbitre est obligatoire, il y a aussi l'imposabilité d'être imposable, il y a aussi la sanctionnabilité. Lorsqu'une règle de droit est vulgarisée et promulguée, elle n'est pas sanctionnable, elle n'est pas une règle de droit. On peut lire à ce titre le grand classique comme Nyabirungu et les autres. Parlant de la démocratie, il faut quand même relever ici à titre pédagogique que la démocratie n'est pas le seul mode de gestion d'un pays. Il y a aussi des modes non démocratiques. D'ailleurs, l'histoire nous rappelle que nos ancêtres n'ont pas pratiqué la démocratie. Mais la justice existait, il n'y avait pas de guerre comme aujourd'hui. Puisque nous avons opté pour la démocratie comme mode de gouvernance, il faudra rappeler qu'aucune constitution au monde, même celle américaine, n'a défini ce que c'est un régime politique. C'est en étudiant les rapports entre les institutions qu'on arrive à déterminer le régime d'un État. Et de façon classique, il y a deux régimes classiques, le régime présidentiel et le régime parlementaire. Le régime semi-présidentiel qu'applique la RDC et la France, c'est seulement la signe de ces deux régimes. Et le régime présidentiel qui n'est appliqué qu'aux États-Unis a un principe sacro-saint, la séparation rigide des pouvoirs. On a le président qui est casé dans son coin, il ne peut rien faire au Parlement, et le Parlement qui est casé, sauf dans l'état du veto que le président peut appliquer dans le Parlement pour l'intérêt. On a le régime parlementaire qui est cadré par la séparation souple des pouvoirs. C'est vrai que chacun est de son côté, mais quand même, il peut arriver que les responsables, les parlements soient responsables. Chez nous, au Congo, on a les régimes semi-présidentiels. Et contrairement à ce que l'invité a dit, je pense qu'il y a les éléments qui définissent ces régimes que nous appliquons. Il y a la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement. Il y a la possibilité pour le président de dissoudre le Parlement, à savoir l'Assemblée nationale. Il y a aussi la collaboration des pouvoirs. Partant de cela, je tiens à dire ceci. Le droit international est un droit recommandable et apparemment philosophique. On a de belles règles qui ne sont pas toujours appliquées. Pourquoi? Il y a deux causes. Premièrement, une règle internationale, lorsqu'elle est prise, il faut que les États membres de cette organisation puissent le mettre en pratique. Or, on a toujours remarqué en Afrique le manque de volonté politique des chefs d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir. Deuxième chose, en relations internationales qui complète le droit international. Il prouve qu'aujourd'hui, les rapports entre États sont des rapports de force. Avec cet état des choses, on aura toujours de belles écritures sur le plan international et qui ne sont pas toujours appliquées. La démocratie, pour finir, j'ai se repose sur plusieurs éléments, comme l'invité l'a dit. À part la charte que vous citez, il y a plusieurs chartes encore qui existent. On a même une charte de 81 sur le droit de l'homme et du peuple. On a même un pacte de 66 sur le protocole des droits civils et politiques. On a même un décret de 49. Il y en a beaucoup. Et ces limites, je peux le résumer en quatre points pour dire le premier point dans une démocratie, c'est la primauté du droit sur tout acte et le respect des lois. Dire qu'en RDC, cela n'est pas appliqué, c'est quand même être méchant, parce qu'il faut quand même reconnaître dans une démarche intellectuelle les points positifs et les points négatifs. Par rapport au deuxième point, la promotion et la protection des libertés et droits de l'homme. C'est vrai, il y a des points que nous déplorons, que nous négligeons, que nous décrions, comme le non-respect des manifestations publiques, mais quand même certaines règles qui sont respectées, comme la liberté d'expression. Aujourd'hui, Maître Gabin peut parler, vous avez vos confrères de Toko Miwa, les gens qui parlent, personne ne l'inquiète. Lorsqu'on critique, il faut aussi savoir filtrer ce qui est fait. Parlant de la séparation des pouvoirs, qui est mon problème central. Dans notre pays, avec notre régime, le principe s'approche que le gouvernement, c'est la séparation des pouvoirs. Et moi, je m'inscris en faux contre l'invité pour dire qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Il faut distinguer la séparation politique et la séparation juridique. Si vous lisez l'article 149 de notre Constitution, on garantit l'indépendance des pouvoirs judiciaires. L'article 151 de notre Constitution dit que, en aucun cas, les pouvoirs législatifs ne peuvent s'opposer aux décisions judiciaires. Voilà pourquoi l'époque de M. Kamere, un assemblée parlementaire a voulu s'opposer à la Cour suprême. Cette décision a été annulée au nom de la séparation des pouvoirs. Il y a quand même des cas pratiques qui montrent que la séparation existait, néanmoins quelques cas. Je ne suis pas contre lorsqu'il n'y a pas séparation, mais lorsqu'on évoque des faits, il faut quand même savoir les prouver. Parlant des élections, qui est le quatrième point fondamental dans une démocratie, il faut quand même féliciter les avancées qui ont eu lieu et dénoncer les irrégularités en termes de non-respect des délais. Mais tout se limite hier pour qu'il y ait réel état des droits, pour qu'il y ait réelle démocratie, par la vulgarisation des droits de l'homme que les peuples doivent connaître, aussi par la sanctionnabilité. Si on ne sanctionne pas les violations de droits de l'homme, on va toujours crier. Il y a un principe, ça concerne la matière des droits de l'homme, c'est le principe VRRR. V qui veut dire vulgarisation, R qui veut dire respect, R qui veut dire encore revendication et R qui veut dire répression. Lorsqu'on ne vulgarise pas, lorsqu'on ne respecte pas, lorsque le peuple ne réplique pas, lorsqu'on ne réprime pas, on aura des beaux textes et rien ne se fera. Souvenez-vous que la loi n'est pas ce que disent les textes, mais c'est qu'en font les acteurs. Et j'ai fini par demander à la conscience, les droits de l'homme, qu'on soit démocratique ou pas, sont censés être respectés et tout le relève de la conscience de la population.
Merci beaucoup, Maître Omar. VRRR, vulgarisation, respect, revendication et répression. Là, parce qu'il s'agit d'une préoccupation directe, je donne la parole directement à notre invité.
Maître Omar, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. Je voudrais bien dire que je suis d'accord avec vous sur pas mal de choses. Il ne s'agit nullement d'une contradiction entre vous et moi, dans la mesure où la séparation de pouvoir à laquelle on fait allusion, je ne veux pas dire qu'il n'y a rien. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, la tendance c'est d'indiquer ce qui ne marche pas, même si on sait que dans ce qui ne marche pas, il y a toujours une portion de ce qui marche. Donc je ne peux pas dire, je suis avocat moi-même des professions, je ne peux pas dire que d'une façon ou d'une autre, le principe des séparations de pouvoir ne s'applique pas en République démocratique du Congo. Mais on se rend compte que quand il s'agit des décisions qui touchent les autorités au plus haut niveau, eh ben il y a beaucoup d'ingérences du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Et cela est démontré, si vous êtes avocat, vous le savez encore mieux. Mais toujours est-il que, en parlant de la juridicité, je tiens à vous rappeler qu'il existe une doctrine très très abondante. Je ne veux pas vous envoyer, vous demandez à JR, je suis d'accord que JR vous donne mon numéro de téléphone. Je vais vous mettre à votre disposition une doctrine très abondante en ce qui concerne la juridicité d'une norme. La juridicité, la sanction n'est pas un élément pour qu'une norme soit une norme juridique. Une norme peut être une norme juridique sans pour autant que cette norme soit pourvue d'une sanction. Lisez le professeur Mampouya en droit international public, lisez le professeur Boulaboula, je ne veux pas citer les auteurs étrangers, mais si on vous donne mon numéro de téléphone, je suis prêt à mettre à votre disposition une bibliothèque
mais faire les distinguos entre la séparation politique et la séparation juridique, ça c'est un aspect quand même important. Et dit, nous sommes à un certain niveau, oui, parler de la séparation du pouvoir qui souffre sur le plan politique, ça peut passer selon Omar, mais la séparation juridique, bon, il a même pas quelques réserves.
Mais ce que je dis, c'est que les principes de la séparation de pouvoir, c'est un principe constitutionnellement garanti. Une chose est de garantir la séparation de pouvoir dans un texte, une autre est de pouvoir l'appliquer. Or, dans notre pays, ce n'est jamais, ça n'a jamais été un problème.
Le droit et la politique, c'est toujours, ça n'a jamais, pas bon ménage.
Ça n'a jamais été un problème des textes dans notre pays. Le plus des problèmes que nous rencontrons dans notre pays, c'est le problème de la mise en œuvre de ces textes-là. Pour la simple bonne raison que lorsqu'une question se pose et qu'il y a une forte implication politique, parce que cette question a de l'implication politique, eh ben, on se rend bien compte qu'il y a plus l'immixtion de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire, et en ce moment-là, on se rend compte que c'est l'exécutif en réalité qui domine, alors que tel ne devrait pas être le cas. Telle est la réalité de notre pays.
Et aussi des continents, parce qu'aujourd'hui,
et plus en pays... Et des pas mal des pays africains. Parce que, comme je venais de le dire, c'est que les sanctions en droit international existent. Je ne dis pas que les sanctions n'existent pas. J'ai voulu tout simplement montrer que la juridicité d'une norme n'est pas fonction d'une sanction. Une norme peut être une norme juridique sans... pour autant que cette norme soit pourvue d'une sanction. Et j'ai dit à ce sujet, la doctrine est abondante, etc. Soyez en contact avec moi, je mettrai ma bibliothèque à votre disposition.
On n'a plus assez de temps, donc le temps peut-être d'accorder 30 secondes à Maître Sonville et à Sylvain, et puis on revient à vous pour la conclusion. Maître Sonville, vous êtes avec nous à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, bonjour à notre invité. Par rapport à la mise en œuvre, ça souffre d'application au niveau de la RDC. D'ailleurs, aujourd'hui, le CGI, le principe vient de parler du respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, l'accès au pouvoir par direction démocratique. Aujourd'hui matin, à la résidence du président Kim Wakumwanza, on a lancé des gaz lacrymogènes, puisqu'on a programmé une marche pacifique. Et vous voyez que rien, ni sur une petite ligne, n'est respecté. Par rapport à cette charte. Et au-delà de ça, nous condamnons beaucoup les organismes régionaux. Au niveau de l'Afrique de l'Est, il y a eu la CEDEAO qui a fait quelque chose. Chez nous ici, les SADEC, la CEAC, la CIEGL, ce sont des organismes apparents qui ne font absolument rien.
Merci beaucoup, Maître Sonville. On va accorder également la parole à Sylvain. Voilà, Sylvain, vous êtes avec nous. Bonjour, Sylvain.
Bonjour.
Malheureusement, on n'a pas assez de temps. 30 secondes, on vous accorde, Sylvain. Peut-être la prochaine fois, vous appellerez peut-être à temps et puis, on vous accordera largement les temps.
Oui, en fait, je dis que les contrarios que nous observons dans la pratique politique au Congo attestent que l'observance des éléments ou des principes qui sont retenus dans ce charte ne sont pas observés. Ça, c'est mon point de vue. Je crois que cela se démontre partout. Comme je n'ai pas assez de temps, je crois que je dois m'arrêter là-bas.
Merci beaucoup, Sylvain. Alors, on va conclure avec vous. Maître Gabel Loulendou, Moussoumari, pardon. Voilà, donc, j'ai interverti les lettres. Voilà, Moussoumari. Vous êtes expert en droit international et membre de la direction politique de l'UNC, cher Vital Kamerhe. Vous avez suivi les uns les autres. C'est vrai, on est tous d'accord que la charte, 10 ans après, souffre d'application pour des évidentes raisons que vous avez évoquées. Mais que faire concrètement pour qu'on arrive demain? Est-ce que demain sera meilleur, peut-être pour l'Afrique et particulièrement pour le Congo?
Si l'Afrique ne va pas être construite par une génération spontanée, la construction de l'Afrique dépend de la volonté de ses propres citoyens. Il faut bien évidemment que le peuple africain se prenne en charge en s'appropriant bien évidemment les instruments.
On m'a parlé de la vulgarisation, du respect, de la revendication et puis de la répression.
Voilà. Ça veut dire il faut que le peuple africain puisse s'approprier bien évidemment des instruments juridiques aussi bien au niveau national, aux différents niveaux, au niveau national et au niveau international. Dans la mesure où, s'il n'y a pas appropriation des peuples des différents principes participe des différents droits qui leur sont reconnus, ils ne peuvent pas revendiquer ces droits, et s'ils ne peuvent pas revendiquer le droit, ceux qui ne veulent pas que ces droits puissent être mis en application vont continuer à profiter de ce droit. Cela est très important, c'est pour cette raison que je dis, rien ne peut se faire si les principes 7 ne peuvent pas être mis en mouvement. Il faut absolument que le peuple se prenne en charge en s'appropriant les différents processus et en se battant pour que ces processus se mettent en œuvre. Autrement, nous allons continuer à crier, etc. Je suis content aujourd'hui en République démocratique du Congo, les gens tiennent absolument au respect de la Constitution et à l'alternance démocratique et les gens se battent pour ça. C'est déjà une très bonne chose et on peut espérer que le jour à venir, la République démocratique du Congo va connaître aussi des avancées.
Merci beaucoup, Maître Gabin Lulendu Moussoumari, expert en droit international et membre de la direction politique de l'UNC. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous d'avoir participé à ces débats, à cet échange citoyen. Nous prenons rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs.
L'émission Paroles aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.